Bien, chers amis, je vous propose que nous commencions à nous pencher sur ce psaume 104. Et je vous propose que nous l'attaquions sans mot d'introduction, en entrant directement dans ce texte, comme si nous découvrions ce texte peut-être pour la première fois. Alors certains parmi vous l'ont lu, mais vous allez avoir le texte qui arrive. Et je vais vous proposer qu'on puisse se répartir un peu la lecture. Peut-être que quelqu'un commence à le lire, et puis, lit une dizaine de versets, puis quelqu'un lit une dizaine d'autres, et puis quelqu'un encore une dizaine. Bon, il y a 35 versets, il faudrait couper en trois parts à peu près égales, quoi. Disons dans les 13, dans les 12, 12 et quelques. Oui, très bien, volontiers. Je crois que c'est distribué. Effectivement, il y en a encore qui sont en train d'avoir la feuille. Je vais peut-être vous passer le micro, d'ailleurs. C'est bon ? Parfait. Allez-y.
Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux. Il fait des nuées son char. Il se promène sur les ailes du vent. Il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Il a fondé la terre sur ses bases. Elle ne sera point ébranlée à toujours et à perpétuité. Tu l'avais couverte de la ville comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta menace, elles s'enfuirent. À la voix de ton tonnerre, elles se hâtèrent de fuir. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent, au lieu même que tu leur avais établi. Tu leur as mis une limite qu'elles ne dépasseront point, elles ne reviendront pas couvrir la terre.
Est-ce que quelqu'un peut prendre la suite ?
Il a envoyé les sources dans les vallées. Elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux des cieux demeurent auprès d'elles. Il faut résonner leur voix d'entre les branches. De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, laissant sortir le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage avec l'huile et avec le pain, il soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés, les oiseaux font leur nid, les pins sont la demeure de la cigogne. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour les saisons, le soleil connaît son coucher.
Tu amènes les ténèbres et la nuit arrive, alors toutes les bêtes de la forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Alors l'homme sort à son ouvrage, à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Cette mer grande et vaste a tout sens. Là se meuvent son nombre des animaux, les petits avec les grands. Là se promènent les navires, là ce léviathan que tu as formé pour s'y ébattre. Tous s'attendent à toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu leur donnes, ils recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu caches de ta face, ils sont troublés. Tu retires leur souffle, ils expirent. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. La gloire de l'Éternel sera à toujours. L'Éternel se réjouira en ses œuvres. Il regarde vers la terre et elle tremble, et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai à l'Éternel durant ma vie. Je chanterai les cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable. Moi, je me réjouirai en l'Éternel. Les pécheurs prendront fin de dessus la terre et les méchants ne seront plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez Jean.
Merci beaucoup. Bon, je commence par vous donner la parole. Vous venez d'entendre ce texte. Qu'est-ce que vous en faites à titre personnel? Ça vous sert à quoi ce genre de texte? L'idée, c'est qu'on partage un peu nos réactions. Oui.
Un texte de louange.
Louange.
Donc c'est une adoration, c'est un remerciement et c'est une reconnaissance pour la création. Alors quelquefois, il y a des petits problèmes avec les possessifs, avec les ton, toi ou lui, on ne sait pas trop.
Oui.
Pour établir exactement le suivi du raisonnement, ce n'est pas des moments où on est un peu gêné.
On est un petit peu bousculé, on s'attendrait à une syntaxe un peu différente. Ça manque de fluidité. Bon. Est-ce que c'est une louange que vous pourriez prendre telle quelle? Est-ce que c'est comme cela que vous diriez les choses? Si vous aviez le souhait d'une louange personnelle, est-ce que ça irait bien dans votre bouche?
Non.
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 Oui.
Je ne sais pas si c'est la question, mais moi je pensais qu'on introduit dans la COP 21.
Oui.
Eh bien, il y aurait tout à fait matière, tous les éléments.
Oui. Ça manque un peu de pollution quand même, et de réchauffement climatique.
Justement, il y a l'injectif.
Oui.
Se rendre compte à quelque chose qui a
en tout cas, il y a un intérêt pour la création, disons pour l'environnement, pour être plus dans le champ sémantique de la COP 21, qui pourrait nous responsabiliser vis-à-vis de ce qu'il y a autour de nous. Très bien. Oh ouais, on va voir ça.
Oui, c'était le jeu des pronoms personnels.
Oui.
Avec alors aussi bien la grève qui dirait à Dieu.
Oui.
Ensuite, le il pour reprendre du recul et magnifier la création.
Oui.
Et peut-être alors, y a-t-il quelque chose de plus directement dans le tutoiement qui n'existe pas dans les textes cosmiques traditionnels? Il y a tutoiement qui n'existe pas dans les textes.
Ouais.
Antique, je veux dire, qui manipule la création, ah
ouais.
Est due au pluriel.
Ah il ouais. Y a une sorte de majesté qu'on pourrait attendre, qui n'apparaît pas bien dans le tu, qui est quand même très familier. Mais, alors, je ne vais pas faire d'anachronisme, parce que vous parlez des textes des temps anciens, mais un auteur du XXe siècle, le philosophe Heidegger, disait de l'être qu'on a envie de le tutoyer, on a envie de le dire tu. En dépit du fait qu'il avait essayé de revaloriser au maximum l'être comme fondement de ce que nous pouvons être. Oui.
Mais avant la reconnaissance, moi, ce qu'il indique d'ailleurs qu'à la fin, je me réjouirai en l'éternel.
Oui.
Moi, j'ai vraiment l'impression d'admiration, de grandeur. C'est-à-dire que c'est un bon organisateur, un bon ingénieur, et c'est top, hein, comme mise au monde du réel. Et là, ce que je trouve surtout que je ressens la majesté, la
oui, l'admiration. L'admiration, c'est un terme religieux, hein, puisque mire, c'est le sentiment religieux face à ce qui, dans une certaine mesure, nous fascine, en fait. Hein.
C'est l'émerveillement.
Quoi. Oui, il y a de l'émerveillement. Est-ce que nous pourrions essayer de trouver dans ce texte, j'allais dire, ce qui provoque cet émerveillement? Alors, bien sûr, c'est ce qu'il voit, mais je ne voudrais pas vous poser une question qui vous donne la réponse sur laquelle j'aimerais bien vous embarquer. Voilà. Alors, Je joue le mailloticien, oui. Si vous deviez être à la place de ce croyant, qui effectivement s'émerveille, admire, et du coup est dans la reconnaissance et la louange, mais aujourd'hui, là, comment vous vous y prendriez ? Une fois de plus, je reviens sur votre louange personnelle. On a vu que ces mots-là, tels quels, n'allaient pas très bien dans notre façon de vouloir dire les choses, c'est-à-dire que culturellement, ça résiste. Typiquement, si je le faisais dire par un enfant le dimanche matin au culte, on aurait l'impression d'un décalage. Vous voyez ?
Alors, on aurait l'impression... On serait davantage vers l'univers, je crois, maintenant, avec toutes les histoires de cosmos, de recherche, aussi bien en physique quantique que dans l'astrophysique.
On serait beaucoup plus dans l'au-delà.
Beaucoup plus dans l'au-delà. Et je crois qu'on perdait un tout petit peu cet émerveillement direct pour la création terrestre, pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand pour le cosmos.
Bon, alors, voilà, j'ai enfin un mot sur lequel je peux articuler mon début de pensée, c'est « directement ». Est-ce que vous avez le sentiment que cette louange vient directement en observant ce qu'il y a autour de lui ?
Non.
Bon, vous avez compris qu'il y avait un piège. Très bien.
C'est une composition pour moi.
Oui. Et alors, cette composition, est-ce qu'il y a une structure ? Est-ce qu'il y a un motif ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui amène à cette composition ? Est-ce que vous avez repéré ce qui pouvait amener à cette composition ? Oui. Et quelle est cette logique ? Je vous explique, hein, c'est le seul argument de toute notre séance, hein, c'est de trouver la logique du texte.
D'accord, mais là, en fait, il y a un besoin qui est énoncé.
Oui.
Et il y a une réponse au besoin.
Un besoin, quel serait-il, ce besoin ?
Eh bien, les animaux, par exemple, je crois, dans le verset 11,
oui.
Les animaux ont besoin de boire, eh bien,
ils sont rassasiés.
Voilà, ils trouvent, il y a une satiété, il y a une réponse au besoin.
D'accord. Donc,
c'est
une face. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'ingénieur qui a bien fait son travail, c'est-à-dire que la création fonctionne. Oui. Alors juste votre voisin, oui.
Je voudrais dire, à mon avis, le mot essentiel dans le raisonnement,
hein, oui.
Il a fondé la terre sur ses bases. Aristote, comme disait Rousseau, c'était bien sortant l'un de l'auteur des choses, on a l'impression voilà, qu'il y a une terre qui est fondée et le reste en découle.
D'accord. Donc, est-ce que ça signifierait que dans votre idée, Dieu est créateur en ce qu'il rend, enfin, ce qu'il pose les bases, les fondements, c'est-à-dire qu'il donne l'élan initial, et puis ensuite, à nous de jouer ?
Pas tout à fait, parce que
non.
J'ai l'impression qu'il suit l'ordre de la création dans la Genèse.
Mais oui, mais voilà, mais oui, précisément, on va voir ça. Bon, en fait, là, on a tous les éléments, c'est-à-dire que vous avez fait l'exégèse telle qu'il faut la faire. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre les éléments de l'enquête ensemble et vous avez la manière que le psalmiste a utilisée pour composer ce psaume. Les éléments, ce sont cette bizarrerie sur les pronoms personnels, entre le « tu » et le « il », et l'idée qu'il y a une proximité avec le récit de Genèse 1, et votre intuition, c'est que ça suit Genèse 1, finalement. Certains ont dit que c'est dans le prolongement. Vous avez dit ensuite que finalement, c'est peut-être la structure. Eh bien, je vais vous montrer qu'en fait, c'est une relecture de Genèse 1. Alors, en disant cela, ça nous... Je vais vous le montrer, hein, preuves à l'appui, ne vous inquiétez pas. D'autant que je vous ai déjà fait un premier découpage qui vous donne un petit peu les astuces. Oui, c'est un texte qui est quand même beaucoup moins connu que Genèse 1 ou 2. Qui avait déjà lu ce psaume un peu sérieusement avant aujourd'hui ? Bon, très bien.
Vous l'avez lu pour
une heure. Ah oui, non, mais si ça n'avait pas été mis au programme, est-ce que ça fait partie des textes que vous avez sous le coude ? Ah ouais.
Comme tous les psaumes.
Oui, le vin qui a réjoui le cœur de l'homme, oui, d'accord, ok. Mais en fait, c'est vrai que c'est un texte très mal connu, alors qu'il me semble du même intérêt que Genèse 1, et peut-être en dit-il un petit peu plus. Ce un petit peu plus vient du fait qu'il ne s'intéresse pas aux origines lointaines de la création, ce que pourrait laisser un peu penser Genèse 1. Vous savez, souvent, quand on lit Genèse 1, on a l'impression que ça raconte la façon dont le monde a vraiment été fabriqué. On pourrait dire quasiment c'est un récit scientifique de type Big Bang, de type les bulles, de type je ne sais pas quoi encore. Alors qu'en fait, ce n'est pas un texte scientifique qui raconterait la fabrication du monde, mais la création. Et la création, c'est rendre le monde tel qu'il est un peu plus vivable. Et ce texte, donc, ne s'intéresse pas aux origines lointaines, mais à la création que nous avons sous les yeux et à la manière que nous pouvons avoir de poursuivre ou d'améliorer cette création. Ensuite, le deuxième point, c'est que, du coup, il n'y a pas d'immédiateté. C'est-à-dire que le croyant a effectivement le monde sous les yeux, et ça l'émerveille, ça le réjouit, mais il ne fait pas une lecture immédiate de la nature. Il ne fait pas une lecture directe. Il regarde, il observe la nature à travers le prisme de Genèse 1, à travers le prisme d'un récit mythique. Ça veut dire qu'il n'a pas sous les yeux la nature telle qu'elle, il a la nature passée par un filtre qui donne du sens, par une interprétation. Je pense que le meilleur exemple que je puisse vous donner pour que vous compreniez ce qui est à l'œuvre ici, c'est le travail de l'archéologue. Lorsque l'archéologue fouille son carré, il repère strate par strate, niveau par niveau, les différentes phases d'occupation, et à chaque fois, il fait un croquis pour matérialiser, pour figer l'état de la strate. Il fait un croquis et pas une photographie. Enfin, si, ils peuvent faire une photographie, mais ce qui compte, c'est le croquis. Parce que dans le croquis, il ne va pas tout dessiner. C'est-à-dire qu'il va laisser de côté ce qui pourrait parasiter la compréhension de la strate. Par exemple, un caillou qui fait partie de la strate, mais n'apporte pas d'informations particulières sur la manière dont les gens ont vécu, ne sera peut-être pas représenté. Voilà. Donc, il y a un travail d'interprétation qui consiste à laisser de côté certaines informations qui brouillent le sens plus qu'ils ne mettent en évidence le sens. Quand vous racontez un événement qui s'est passé, eh bien, vous allez laisser de côté certains détails, vous allez en grossir d'autres pour que ce soit bien compréhensible. C'est exactement ce qui se passe dans les évangiles. Il y a quatre évangiles qui sont différents, non pas parce que les quatre seraient faux, mais parce que les quatre correspondent à des angles, des points de vue différents qui mettent l'accent sur ce que le témoin ou le rédacteur voulait transmettre à la personne qui prenait connaissance de l'événement. Et donc ici, le croyant fait la même chose. Il ne prend pas l'environnement tel qu'il lui apparaît, mais tel qu'il le perçoit à travers un filtre qui va mettre en évidence ce qui a plus ou moins d'importance. Et donc, c'est important parce que dans la Bible, en fait, on se rend compte que la nature est une réalité étrangère à la pensée des auteurs. C'est-à-dire que tout le travail des auteurs bibliques, c'est d'arracher les hommes à la nature pour les faire entrer dans la culture. Sinon, le monde ne serait que ce que, je ne sais plus si c'est Wilfred ou Théodore Monod disait, un intestin géant. Hein, puisque le lion, c'est la gazelle digérée, etc. Autrement dit, mettre un filtre entre ce que nous voyons et ce qui est, c'est donner du sens à ce qui est, et non pas se laisser submerger par la seule nature. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de théologie naturelle selon la Bible. Voir le monde ne permet pas de savoir qui est Dieu ni ce qu'est l'homme. Si l'homme se contentait d'observer les animaux pour savoir ce qu'il doit faire, alors il serait effectivement un loup pour l'homme. Et c'est toute la question de Wilfred Monod, le problème du bien. Ce qui est naturel, c'est le mal. C'est la rivalité, c'est la loi du plus fort, c'est « pousse-toi de là que je m'y mette ». Ce qui est surnaturel, c'est le bien, le fait qu'il puisse y avoir du « après vous », de l'altruisme, du service, de la fraternité. Et donc, c'est exactement le rapport que le psalmiste entretient avec son environnement. C'est un rapport de sens et pas un rapport d'immédiateté. Est-ce que ça, c'est à peu près clair? Mais vous pouvez aussi ne pas être d'accord, ceci dit. Là, je vous balance ça un peu comme ça, sauvagement, mais... Mais alors, ça n'empêche pas la poésie. Mais je dirais, il y a une sorte de maîtrise. Pour une raison qu'on peut comprendre, imaginons-nous face à un coucher de soleil. Vous voyez ce coucher de soleil après avoir perdu un ami proche. En fait, c'est épouvantable. Enfin, je veux dire, ça vous rend triste. Il y a une dimension tragique. Vous voyez, un peu plus loin, il y a le même coucher de soleil vu par deux amoureux transis. Je veux dire, il n'y a rien de plus merveilleux. Ce que je veux dire, c'est qu'un événement naturel est très ambigu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens a priori. Il a le sens qu'on va lui donner. Et du coup, le mythe, Genèse 1, permet de donner du sens à ce que nous voyons. Quelqu'un qui... c'est exactement le principe du rapport à l'étranger. Vous voyez un étranger qui arrive vers vous, vous pouvez tout simplement être effrayé, une menace, ou alors au contraire, vous pouvez découvrir un nouveau compagnon. Vous pouvez découvrir quelqu'un avec lequel vous allez vous enrichir. Et donc, selon le mythe que vous avez en tête, l'étranger constitue une menace, ou au contraire, un potentiel camarade de jeu, enfin... Romasson sur son île, quand il voit les traces laissées sur le sable, il imagine la présence de l'autre et il l'imagine avec bonheur. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être épouvantable.
Ce passage de la nature à la culture est très intéressant. Ce que vous avez dit, on pourrait l'illustrer par deux ou trois phrases ici ou là. Il montre comment c'est pas la nature en tant que telle, mais si on peut faire cet exercice, juste deux ou trois exemples.
Je vais vous les donner dans une demi-heure. Parce que j'ai pas fini de jouer avec vous. Mais retenez bien cette question si jamais je n'y répondais pas dans le cours, mais il y a des exemples très précis. Le premier exemple, enfin le premier élément de réponse, c'est que justement il y a une structuration de l'observation, donc c'est pas une observation immédiate. On se contente pas, c'est pas comme Georges Perec qui s'installe sur la place de Saint-Sulpice et qui dit tout ce qui se passe. C'est raisonné ici, c'est une sorte de catalogue raisonné de l'environnement. La première raison, le premier motif, c'est ce que vous disiez, les pronoms personnels, les alternances entre « tu » et « il ». Et là, le texte tel que je vous l'ai mis en page alterne justement les « tu » et les « il ». Hein, vous voyez, il y a des blocs. À chaque fois qu'il y a une ligne qui fait espace, c'est une différence entre le « tu » et le « il ». Alors, en religion, est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le « tu » et le « il » ? Indépendamment des questions de majesté dont on a parlé tout à l'heure. Dans un culte, on utilise le tu et le il. À quel moment ?
Non, je vois qu'il y a un espace de trois personnes au lieu de deux. Il y a l'autre.
Ah, quand il y a du il.
Le il, c'est un récit en principe.
C'est un récit. Mais en religion, ça serait quoi ? Imaginons qu'on est le dimanche matin au culte. Sans que vous vous en rendiez bien compte, le pasteur des fois dit du tu, des fois il dit du il. À quel moment il dit du tu et à quel moment il dit du il, s'agissant de Dieu ? Non, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de piège là en fait.
Le il, c'est quand il s'adresse à lui.
Ah non, parce que le culte, il y a toujours la communauté présente. Et des fois je dis du tu, des fois je dis du il.
Mais quand c'est le moment de la prière, c'est la relation de la prière.
Alors la prière, c'est quoi ?
Tu.
La prière, c'est tu. Et le il, c'est quand ? Alors ça peut être le commentaire, effectivement, ça peut être dans la prédication, mais il y a un autre moment de la liturgie où il y a du « il ». Ah bah, si vous me le faites comme ça, réfléchissez, dites-vous. Confession de foi. La confession de foi, elle est en « il ». Il y a une sorte d'objectivation. C'est-à-dire que Dieu devient l'objet du discours plutôt que le sujet auquel je m'adresse. Donc effectivement... Le tu et le il, ce sont deux moments de la vie spirituelle. Le tu pour la prière, le il pour la confession de foi. Et donc, on a ici un découpage qui va alterner les il et les tu et qui va nous donner un peu une idée de la structure utilisée par le rédacteur pour employer Genèse 1 et en même temps employer ce qu'il a sous les yeux. Donc, allons-y pour le découpage. Alors, comme je vous ai déjà mis un peu les paragraphes en évidence, je vais me contenter de vous les commenter. Alors, c'est une structure concentrique. Vous voyez que le verset 1 correspond à la fin du verset 35. « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. » Louer Ya, en fait, c'est Alléluia. Allélu, c'est louer, et Ya, c'est le début du nom de l'Éternel. Donc, louer Ya, c'est Alléluia. Donc, le psaume finit comme il a commencé. Donc, ça, c'est encadré par deux « je ». Il y a un « je » au début et un « je » à la fin, « je ». Et après, ça va être une alternance de « tu » et de « il ». Enfin, de « il » et de « tu ». Donc, vous avez un paragraphe « il », un paragraphe « tu ». Ensuite, il y a un grand paragraphe que je mets de côté pour l'instant. Un paragraphe « tu ». Et puis ensuite, un paragraphe « il ». La gloire de l'Éternel sera toujours, l'Éternel se réjouira en ses œuvres, il regarde, etc. Et c'est une façon de dire qu'il y a un paragraphe au milieu qui est isolé, qui est le centre. La structure concentrique, elle nous dit où nous devons porter notre regard de façon privilégiée. Alors, ça c'est un premier élément, la forme participe au fond, la forme indique au lecteur où il doit concentrer son attention. Le reste n'est pas sans importance pour autant. Maintenant, on va essayer de tester cette hypothèse que vous avez évoquée à raison, à savoir que la structure de ce psaume, c'est la structure de Genèse 1, le premier récit de création. Avant cela, juste, je vous fais un petit test de connaissances catéchétiques. Est-ce que vous avez entendu parler de l'hypothèse selon laquelle il y aurait plusieurs sources rédactionnelles dans les cinq premiers livres de la Bible ? C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs familles de rédacteurs. Alors il y a yavistes, éloïstes, sacerdotales et deutéronomistes. Ça, c'est une hypothèse développée au XIXe siècle par l'exégète Julius Wellhausen, qui était une façon de dire que le Pentateuque, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible tels que nous les avons, c'est une compilation de quatre sources différentes qui ont été rassemblées pour former ce corpus. Éloïste, c'est le royaume du Nord, du côté de Samarie, et on imagine une rédaction vers le 8e siècle. Yaviste, c'est le royaume du Sud, c'est Jérusalem. On imagine une rédaction vers le 6e siècle, 7e, 6e siècle. La couche sacerdotale, c'est celle qui vient à la fin. Donc il y a d'abord deutéronomiste avec la réforme de Josias, par exemple. C'est les livres de Jérémie, quelques prophètes aussi. Et puis la couche sacerdotale, c'est celle qui rassemble tous ces éléments, tous ces documents, et qui rajoute sa propre compréhension des choses. Et le récit de Genèse 1, c'est un récit sacerdotal. La différence entre Genèse 1 et Genèse 2, Genèse 2, c'est un récit a priori yaviste, c'est que Genèse 1, c'est sacerdotal au sens où c'est une vision universelle, alors que Genèse 2, c'est plus en lien avec la terre. Vous voyez, ça serait très anachronique de dire que c'est une vision nationaliste, mais il n'y a pas cette grande vision du cosmos que l'on trouve dans Genèse 1. C'est plus lié à la terre, l'homme est issu de la terre, de la Adama, il est arraché à la terre, arraché à la nature, et puis il est placé dans ce jardin, etc. Bon. La vision sacerdotale est beaucoup plus large, et elle utilise du vocabulaire du temple pour dire que la création, c'est le nouveau temple. Parce que le temple de Jérusalem a été détruit, il y a eu des déportations à Babylone, et du coup c'est une façon de dire que nous pouvons célébrer Dieu dans ce grand temple qui est le monde en fait. Par exemple, les luminaires, en fait, c'est le terme technique qu'on utilise pour les éclairages dans le temple de Jérusalem. Bon. On a ici notre récit sacerdotal, une façon de dire que le psaume 104 est un psaume qui n'est quand même pas très ancien. on pourrait dire que c'est un psaume récent, puisqu'il a déjà sous les yeux d'autres textes. Alors maintenant, vous allez essayer de me trouver Genèse 1 dans ce texte. Eh ouais, pour une fois, c'est vous qui travaillez. Alors, vous pouvez prendre votre Bible à Genèse 1, et puis vous vous souvenez les différents jours. Et ceux qui sont à côté de moi ne trichent pas en regardant sur ma feuille. Alors, oui. Alors moi, ce que je veux, c'est effectivement des actions avec les numéros des jours et les versets. Hein. Alors là, il faut qu'on soit précis. Hein. Parce que Jacques voulait du concret, moi, je veux qu'on ait du concret. Hein. Alors, séparation. Alors, tout d'abord, ça commence. Qu'est le premier jour de la création ? La lumière. Et alors, la lumière, elle est où ? Verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc, la lumière qui fait partie de Dieu. Hein. C'est comme un vêtement qui l'enveloppe. Donc, jour 1, c'est le verset 2. Ensuite, alors là, je crois que 6 à 9, ça correspond au troisième jour. Hein ? Au 3, oui, mais vous avez un peu oublié le verset 2b. Ben, le 2b, il est avant le 3. C'est-à-dire que le verset 2 est coupé en deux, là. Il y a 2a, ça correspond au jour 1, mais le 2b... Eh oui, c'est le ciel. Il étend les cieux comme une tenture. Vous savez, il y a cette idée selon laquelle il y a ce ciel qui est tendu pour éviter aussi que les eaux d'en haut se déversent avec les eaux d'en bas. Enfin, il y a un jeu comme ça. Si ce n'est que, entre-temps, Genèse 6 à 9 a été composé. Et donc, comme il n'est plus censé y avoir de déluge, le ciel n'a plus besoin de servir de limite aux eaux d'en haut. Donc, c'est comme une tenture, comme un... C'est pour le coup vraiment un ciel étoilé. Et c'est une sorte de toile de tente tendue par Dieu. Et donc, c'est le jour 2. Moi, je dirais c'est les versets 2a à 4. Enfin, pardon, 2b à 4. Et donc, c'est cette étendue d'en haut et l'étendue d'en bas. La distinction entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et alors, effectivement, le jour 3, vous avez commencé à l'évoquer. C'est quand vous avez évoqué aussi la question des fondations, hein, les fondements de la terre. C'est du verset 5 au verset 9, en fait. Hein, ça, c'est le jour 3, du verset 5 au verset 9. C'est la terre qui est distinguée de l'eau, avec une insistance sur la parole de Dieu.
Elles ne reviendront pas couvrir la terre, c'est donc la promesse de l'arc-en-ciel. Quoi.
Il n'y a plus de déluge. Et il y a aussi sous-jacent la sortie d'Égypte avec le passage de la mer des Joncs et l'entrée en terre promise avec le passage du Jourdain. Hein, puisqu'il suffit qu'il y ait une parole pour que ça reflue. C'est-à-dire que la parole agit sur l'eau, mais mieux que cela, sur la terre sèche. C'est-à-dire que c'est la parole qui permet de faire apparaître de la terre sèche où on peut continuer à vivre, en dépit du fait que dans un cas, on était menacé par l'armée égyptienne, et que dans l'autre cas, il y a un obstacle naturel qui est censé faire barrage, si ce n'est que le chapitre précédent, des gens étaient passés à gué pour aller observer Jéricho. Oui, il y a encore des chaises, vous pouvez prendre place sur une chaise et vous asseoir à la table. Bon. Chacun est libre de s'installer comme il veut. Alors là. Donc, jour 3, la terre distinguée de l'eau. Alors, le jour 4, c'est quoi ? dans Genèse 1. Le jour 4, c'est quoi ? Les luminaires servent à quoi ? Jour, nuit, à marquer le temps, à scander le temps. Donc le jour 4, c'est le temps, la saison, jour et nuit. Ça, c'est où ? Oui, les versets 19 à 24. Il a fait la lune pour les saisons. Le soleil connaît son coucher. Tu amènes les ténèbres et la nuit arrive. Alors toutes les bêtes de la forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent, etc. Ensuite, le soleil se lève. Ils se retirent, se couchent dans leur tanière. Vous voyez, c'est les versets 19 à 24. C'est le jour 4. Ça délimite l'activité entre le diurne et le nocturne, entre l'activité des humains et l'activité des animaux sauvages, entre ce qui amène la vie et ce qui a plutôt tendance à la dégrader. Les oiseaux de nuit ne sont pas forcément bien vus dans les textes bibliques. Si vous êtes plutôt de la nuit, bon, il faut réinterpréter les textes parce que c'est culturel, hein, comprenez ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les commerces soient ouverts la nuit, mais ça indique un petit quelque chose sur... il y a des activités qui favorisent la vie et d'autres pas. Donc c'est un peu la limite aussi entre le domestique et le sauvage. Donc, jour 4, les versets 19 à 24. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au jour 5 ? On a des êtres vivants. On a des êtres vivants. Et alors ça, on les trouve où, ces êtres vivants ? Moi, je crois qu'ils sont au verset 25 et 26. Hein, les poissons qui grouillent dans l'eau, etc. Oui, absolument. Oui. Mais c'est vrai que le cinquième jour commence par la mer qui se remplit de ces poissons. Et en fait, les autres animaux, je vais vous montrer qu'ils ont une sorte de destin un peu spécifique. Vous savez, les poissons sont séparés du reste de la création au moment du déluge. Ce sont les seuls à ne pas subir le déluge. Tous les autres meurent, à l'exception de ceux qui sont dans l'arche de Noé. Bon, c'est pas un événement qui a eu lieu comme ça. Mais c'est une façon de reconnaître que les poissons ont une sorte de destin qui est spécifique et qu'ils ne partagent pas le même espace que les autres animaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont sur Terre ou de ceux qui sont dans le ciel. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le ciel. Hein, et à un moment donné, les oiseaux se posent aussi. Donc en fait, les oiseaux, les animaux, les hommes, enfin les êtres humains, partagent le même espace-temps. Les poissons sont dans un registre un peu spécifique. Bien. Et le sixième jour, il est où ? Pardon ? Ah, je pensais avoir entendu un petit balbutiement. D'accord. Alors, quand il y a dans le récit de Genèse 1, chaque jour, à chaque fois, Dieu vit que cela était tov. Hein, souvent, c'est traduit par Dieu vit que cela était bon. Mais le sixième jour, il vit que cela était tov meod, très bon. Encore meilleur. Qu'est-ce qui se passe le sixième jour ? C'est nous qu'on est les meilleurs. Ah ouais. Y a tous les clubs français qui ont été créés en 1970, il y a le PSG qui arrive. Ah. Et là... ouais. Et donc, c'est compris dans Genèse 1 comme l'élément qui vient un peu accomplir l'ensemble de la création. Et puis après, il y aura le Shabbat qui sera vraiment le point d'accomplissement. Mais déjà, le sixième jour, avec la création de l'homme, c'est particulièrement vivable. Et alors du coup, c'est un statut un peu privilégié, et on le retrouve où dans notre psaume 104. Là, vous avez les éléments hein, par rapport à ce qu'on a dit au début. Alors, pas tous en même temps. Ouais, vous le cherchez après, hein, évidemment. Vous dites c'est linéaire.
Non.
Mais je vous ai dit que c'était une structure concentrique.
C'est sur le centre.
Eh ben non, non plus. Non, 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 non. À 15, c'est pas mal. Hein. Mais on peut faire mieux que 15. Oui, mais en fait, quand on a fait... Et voilà, c'est exactement ça, de 10 à 18. En fait, c'est les versets qui nous manquaient, hein. Tout simplement. C'est ceux qu'on n'avait pas encore utilisés dans notre décompte. Mais il n'empêche que ce sont ceux-là. Donc, versets 10 à 18, on a en fait notre sixième jour. Dans Genèse 1, on le porte un peu au sommet comme l'accomplissement. Et là, dans le psaume 104, on le met au centre pour dire que c'est le cœur de la création. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on a le jardin d'Éden ici, qui est au cœur de l'univers. Vous voyez, c'est très anthropocentré, en quelque sorte. Mais c'est une façon de dire que le domestique est dans un rapport privilégié par rapport au reste. Pas forcément parce que, par nature, notre essence serait supérieure à celle des autres, mais c'est que nous avons une responsabilité particulière. Et là, je vais commencer à répondre un petit peu à Jacques par rapport à sa question nature et culture. Donc, on a au milieu les versets 10 à 18. Et alors là, je vous préviens, c'est pas fini. Vous avez les versets 10 à 18, maintenant vous allez me dire comment ils sont construits ces versets 10 à 18. Donc la réponse est dans le texte. Vous regardez les versets 10 à 18 et vous me dites quelle est la structure, quel est le plan, enfin... Vous m'en faites un petit coup d'exégèse, vous avez réussi sur la méga-structure, maintenant vous retrouvez la mini-structure. C'est complètement concentrique. Vous voyez, vous rendez compte ? C'est le centre du centre. C'est si concentrique parce que le rédacteur s'est efforcé d'avoir une forme qui nous permette d'aller au sens. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on a fait notre listing là, avec les différents jours, dans l'ordre qu'on a évoqué, il manquait les humains, les végétaux et les animaux domestiques, puis les oiseaux, hein, dont le point commun est de partager le même espace, vous disais-je. Eh bien, avec cette structure concentrique, on met un peu comme un coup de projecteur. Vous voyez, on zoome. C'est comme si vous aviez une grande carte et puis vous agrandissez ce qui mérite d'être visité. Vous mettez, on dirait un focus, c'est un terme un peu barbare, mais on met le doigt dessus, on le met à l'index au sens positif du terme. Bon alors, maintenant vous allez me donner la structure de 10 à 18. Vous avez dit que c'était concentrique, vous avez fait le plus gros du travail. Hein. Maintenant il suffit juste de trouver comment ça fonctionne. Alors, il me faut du tangible, hein, il faut des éléments concrets pour justifier que c'est concentrique. Hein.
Okay.
Alors ?
Il y a des montagnes en 10 et des rochers en 18, c'est ça ?
Eh bien, exactement.
Ah. Oui, c'est ça.
Allez, je vous aide, c'est 10-11. Vous savez, les numérotations en versets, c'est le Moyen-Âge. Hein. Quand le texte est écrit, il n'y a pas de découpage en versets. Hein, donc, il faut 10-11, ça fait une unité. Hein. Et ici, 18. Donc, on a effectivement les montagnes, et puis on a aussi les bêtes. Hein, il y a les bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'au verset 11, il y a les bêtes des champs, les ânes sauvages, et puis au verset 18, il y a les bouquetins et les damans. Et peut-être que Francine pourrait nous dire un peu d'ailleurs ce que sont les damans. Parce que je sais que vous avez fait la recherche. Alors vous pouvez nous éclairer, c'est ça aussi le partage.
Oui, alors les damans, ce sont des petits animaux qui ont la taille d'un lapin, qui ressemblent à des marmottes et qui ont des sabots ou des pattes.
Voilà.
Je ne sais pas, j'en ai jamais vu et je ne sais pas, ça existe encore ? On ne me l'a pas dit ça dans mon dictionnaire.
Très probablement. En tous les cas, pour les rats des villes que nous sommes, c'est précieux d'avoir ce genre d'éléments. Mais vous voyez, ce sont des animaux qui vivent dans la nature sauvage, en fait, hein, qui sont équipés pour pouvoir être comme les bouquetins, vivre sans, sans avoir besoin de l'homme.
Dans une version seconde,
oui,
ancienne que j'ai,
oui,
on traduit ça par les boucs sauvages.
Voilà. Ouais. Mais à la limite, bouquin, c'est pas mal parce que c'est des petits bouquins. Mais bon, c'est encore plus petit que les bouquins. Mais vous savez, c'est tellement compliqué à traduire les psaumes parce que des fois, il y a des mots qui n'apparaissent plus ailleurs dans la Bible. Hein, c'est de la poésie, donc ce qu'on appelle des apax. Et donc, pour retrouver le sens d'un mot, là, on se débrouille un peu avec les racines, voir à quoi ça ressemble dans les langues proches. Mais des fois, faut rester calme sur la traduction. Hein. Bon, donc on a un premier niveau. Ensuite, concentrique.
On va jusqu'à servir l'homme, mais bon.
Hein ?
On va jusqu'à servir l'homme, mais on va pas y aller tout de suite.
Oui, alors 12 et 17, effectivement. Et oui. Oui, c'est pas juste, on dit c'est concentrique comme ça, non. Il y a des éléments dans le texte qui montrent que c'est conçu de façon concentrique. Il y a effectivement les oiseaux qui sont de part et d'autre. Donc, les montagnes, les hautes montagnes avec les animaux sauvages, puis les oiseaux, et ensuite...
Il abreuve les montagnes...
Les arbres...
La terre est rassasiée et les arbres poussent. Alors, les arbres de l'Éternel sont rassasiés.
Alors ça serait quel verset ?
13 et 16.
Alors donc,
13 et 16.
Les eaux de l'Égypte, la terre est rassasiée 13.
13 et 16.
Et 16.
Exactement.
13 et 16.
13 et 16. Donc il y a à la fois la végétation cultivée, et puis c'est un peu ce que disait Françoise, rassasiée. Hein, le terme rassasiée est dans les deux versets. Ça va. Donc, c'est vraiment pas un hasard. Hein. C'est vraiment le souci d'avoir cette structure concentrique. Bon, alors après, 15-16, ça va de soi.
14-15, c'est la scène.
14-15, je veux dire, oui. Donc, ça, c'est le jardin d'Éden. 14-15, c'est le jardin d'Éden.
C'est la scène avec le pain.
Il y a l'huile aussi.
En plus, c'est pour la fête.
Alors,
c'est au service de l'homme, hein. La marque au service de l'homme.
Donc, on retrouve enfin notre homme créé, on trouve bien notre sixième jour, mais on trouve aussi, on trouve finalement le jardin d'Éden. Donc, on trouve Genèse 2 aussi. Alors, Jacques, c'est là qu'on a l'homme qui n'est pas dans la nature, mais qui est dans la culture. On le voit par rapport à ce qu'il consomme. Et c'est là d'ailleurs qu'on n'est pas tout à fait dans Genèse 1. Dans Genèse 1, vous savez ce qu'il mange, l'homme ? De l'herbe, fourrage, de l'eau aussi. Hein. Ici, il ne mange pas d'herbe, il mange du pain, du vin, de l'huile. Autrement dit, ce n'est plus la cueillette, c'est la culture. C'est-à-dire que l'homme mange des produits transformés, ou métamorphosés, ou transcendés, des produits manufacturés. Donc on n'est pas dans le registre de la nature, mais de la culture. Le judaïsme insiste beaucoup hein, pour dire qu'on ne mange pas, on se nourrit. Alors la différence, c'est que manger, c'est pour calmer le ventre qui crie famine, c'est pour donner du carburant au corps. Se nourrir, c'est un moment où il va y avoir peut-être de la convivialité, on va donner du sens en tout cas. On ne va pas manger comme ça, s'empiffrer. On va tresser la table, on va peut-être convier quelqu'un. C'est l'occasion, dans le judaïsme, d'une action de grâce. Dans le christianisme, on parle de bénédicité. C'est une façon de dire que ce que nous sommes en train de vivre ne va pas de soi, en fait. C'est ça, ça ne va pas de soi de se nourrir. Tout relève du miracle. C'est-à-dire que c'est significatif. Vous savez, c'est exactement le sens de l'institution de la scène, selon Wilfred Monod, que j'utilise de temps en temps. Hein, le pain qui a une histoire, et le vin aussi. Hein. La Didaké aussi parle de ces grappes autrefois épars, c'est maintenant rassemblé. On est dans un texte qui essaie de montrer que nous sommes dans un monde ordonné. Hein, la création, c'est de mettre de l'ordre dans la nature. Et la parole, ça sert à cela. Dans Genèse 1, la parole, elle sert à donner un nom et une fonction aux différents éléments de la création. La grosse tache jaune le jour... Ah bah bien sûr.
Chaque fois qu'on découvre une nouvelle espèce, par exemple d'insectes, elle n'existait pas tant qu'on ne lui a pas donné un nom.
Bien sûr. Et c'est vrai pour les choses non matérielles. Quand on parle de la justice, vous voyez, la justice, on imagine bien que ce n'est pas une personne qui se promène quelque part et qui s'appelle justice. L'amour, pareil. Alors on peut toujours y avoir en tête Eros, etc. Mais on sait bien que ce sont des... Quand on parle de Dieu, peut-être qu'on pourrait faire le même effort d'interprétation aussi. Peut-être que Dieu désigne quelque chose qui, au niveau de la matérialité, correspond à la justice, correspond à l'amour, correspond au courage, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas matérielles, mais qui, pour autant, ne sont pas sans, enfin, ne sont pas en dehors du réel.
Je pense que si on ne peut pas nommer Dieu dans la Bible, puisque le tétragramme n'est pas prononçable.
Exact.
C'est parce que il est impossible de l'imaginer et de lui donner une représentation qui soit conforme à ce qu'on peut penser. Il est hors de tout cela.
Mmh. Ben, si on a en tête que Dieu est créateur, et c'est ce que dit ce psaume, créer, ce n'est pas copier. Créer, c'est injecter de la nouveauté. Et qui dit nouveauté dit non-définition. C'est-à-dire que ce qui est défini, c'est ce qui est fini, c'est ce qu'on peut dire jusqu'à ses limites, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est limité, donc c'est quelque chose de connu. Donc c'est contraire à la vie qui, elle, se nourrit d'inconnu, de nouveauté, de créativité. Et donc, si on dit Dieu, c'est ce que disent les théologiens comme Bultmann, dire Dieu, c'est déjà plus de Dieu dont on parle. Tillich dira « Dieu est au-delà de Dieu ». C'est-à-dire, Dieu est au-delà des idées qu'on peut s'en faire, des représentations mentales, des définitions, des doctrines, des dogmes, des prédications, des prières, etc. Et ce qui est vrai pour Dieu l'est pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas réductible à ce que les autres disent de nous, ou à ce que les autres croient connaître de nous, même dans une relation aussi proche qu'un couple, par exemple. L'autre reste toujours une énigme. Enfin, on peut l'espérer, hein. Vous savez que quand c'est plus le cas, je vous recommande de prendre contact avec votre avocat. Hein. Quand on dit qu'on connaît l'autre par cœur, c'est-à-dire qu'il est fini en fait. Ben, non, c'est pas vrai. Mais quand c'est vrai, ben, c'est fini. Bien.
C'est Derrida qui dit que rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme.
Voilà, hein, vous avez raison. Derrida qui dit que rencontrer l'autre, c'est être tenu en échec par une énigme.
En éveil.
En échec aussi. Enfin, en fait, j'avais en tête ce que disait Lacan sur le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel parce que justement, il n'y a pas de fusionnel, etc. Mais c'est que l'autre est vraiment une figure de l'altérité. Et quand c'est plus une figure de l'altérité, c'est qu'on en a fait autre chose. On l'a chosifié. Ça devient un ça au lieu d'en faire un tu. Voilà. Et oui. Alors, puisqu'on... Jacques, ça vous va pour la différence entre nature et culture? Les éléments sont probants?
Ça va tout à fait. Je dis cette émergence de la culture et même, je dirais, d'une anthropologie qu'on voit souvent. C'est un être là, mais va bien. Il y a néanmoins une ou deux phrases qui sont un peu indicatives. Moi, je les place sous le bandeau de la poésie, de ce souffle qui nous sort de toute catégorie d'intellectuel ou autre.
Oui, quelle phrase, par exemple? Ah oui.
On n'aurait pas habité une maison comme ça. Mais néanmoins, ça a un côté bateau-ivre, ça a un côté Baudelaire qui ne va bien au milieu de cette construction. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ouvre les fenêtres et il y a une sorte de soupe qui rentre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter?
Oui, c'est une métaphore, c'est de la poésie.
Où il y a un signe d'avantage, une signification qui est sous-jacente à cette espèce de poésie.
Oui, il ne faut pas imaginer que c'est un plan d'architecte ou un cadastre. L'idée, c'est de nous inspirer un rapport dynamique à la création. Les scientifiques font comme ça de nos jours. Quand ils parlent de l'univers, bah, ils en parlent comme des poètes. Comment faire autrement que d'utiliser la poésie pour parler du réel auquel on accède que par les équations ? Ah, parce qu'on nous montre les photos de Hubble, etc. Mais c'est que de l'équation mise en couleur hein, et en image. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on a fait une vraie photo de je ne sais pas quelle galaxie, de l'œil de Dieu ou je ne sais quoi. C'est de l'interprétation. Et donc, interpréter, c'est une tâche extrêmement noble. Le poète est un noble parmi les humains. C'est celui qui nous donne accès au réel de la façon la plus précise qui soit. Rimbaud parmi d'autres. Les peintres, par exemple, qui jouent avec les couleurs et qui nous font... quelqu'un comme Picasso, par exemple. Quand on n'est pas vraiment habitué à l'art, on peut se dire il est nul, il n'arrive pas à représenter le réel. Bon, c'est perdre de vue qu'il essaie de nous emmener sur une représentation dynamique du réel ou alors sur le sens de la réalité. Je crois que la plus belle phrase concernant Picasso, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, des officiers allemands qui viennent dans son atelier et qui voient Guernica. Donc Guernica, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un tableau plutôt en blanc et noir. C'est du Picasso de chez Picasso. Et que disent-ils ? Ils disent « Mais c'est affreux ce que vous avez fait ». Et Picasso de leur répondre « Mais c'est vous qui l'avez fait ». Eh oui. La Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone, quand ils font le Vendredi Saint, moi je trouve ça assez immonde. Mais c'est immonde le Vendredi Saint en fait. Et donc l'art dit juste. Voilà. Parce que sinon, ça serait extrêmement perverse de représenter joliment quelque chose qui est barbare ou affreux. En quelque sorte, oui. Ce serait une sorte d'encouragement à reproduire le geste, quand même. Bien. Alors, on s'attarde un petit peu sur ce petit jardin, là, le petit paradis, en quelque sorte, où on trouve notre humanité. Donc, on voit que l'alimentation n'est pas tout à fait la même. Néanmoins, on garde l'idéal de Genèse 1 qui était de se nourrir de choses qui ne font pas couler le sang. C'est végétalien en tout cas, ou végétarien peut-être même. Bon, en tous les cas, c'est végétalien. C'est l'idée qu'on ne se nourrit pas d'une forme de violence. Et c'est la raison pour laquelle... il y a la loi sur le cachère, dans le judaïsme notamment, qui considère qu'il y a des animaux qu'on ne peut pas manger parce qu'en fait, ce sont des animaux omnivores. Donc, ce sont des animaux qui se sont nourris de la violence. Par exemple, un cochon est capable de manger de la chair. Et donc, on ne mange pas de cochon parce qu'on serait susceptible de manger un animal qui s'est lui-même nourri de la violence. Et donc, on deviendrait nous-mêmes violents si on considère qu'on devient ce qu'on mange, par exemple. C'est symbolique, évidemment. Donc on a ici peut-être une vision un peu idéaliste dans la logique de Genèse 1. Vous avez parlé de la scène, on a la scène effectivement, le pain et le vin. Pourquoi on a la scène ? Eh bien parce qu'en fait, contrairement à l'idée qu'on a souvent, les sacrifices qui ont le plus de valeur dans le code sacerdotal, le Lévitique, ce sont les offrandes végétales. Vous savez, on a toujours l'idée que plus on va tuer un gros animal, et plus on obtiendra les faveurs de Dieu. Alors déjà, les sacrifices dans le Lévitique, ce n'est pas pour obtenir les faveurs de Dieu. Le sacrifice dans le Lévitique, c'est pour achever la réconciliation entre Dieu et l'homme, ou entre l'homme et l'homme. Donc le sacrifice n'est pas ce qui rend Dieu favorable. Le sacrifice, c'est le repas qui scelle la réconciliation. Donc quand il y a le pardon des péchés, hein, le jour du grand pardon, c'est pas le sacrifice qui va rendre Dieu plus favorable. Il y a tout le travail préliminaire. Ensuite, À quoi voit-on que l'offrande végétale est l'offrande au-dessus des autres offrandes ? Eh bien, c'est l'offrande végétale qu'on utilise pour l'intronisation du grand prêtre. Et vous comprenez que le grand prêtre a vraiment un statut particulier. Hein. Tout à l'heure, on disait qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Le grand prêtre le pouvait, une fois par an, au moment de Yom Kippour, justement le jour du grand pardon, le jour des expiations, rentrer dans le Saint des Saints, ce qui était tout à fait interdit aussi, il prononçait le nom de l'Éternel. Et l'intronisation du grand prêtre se fait notamment par manger le pain et le vin. Ce qui pourrait nous inspirer dans notre compréhension de la scène. Parce que il se pourrait bien que le récit de la scène soit l'intronisation du grand prêtre. Que Jésus soit intronisé grand prêtre. Mais il fait mieux que ça, en fait. Parce qu'il ne le garde pas pour lui, il le partage. Ça veut dire que c'est l'institution du sacerdoce universel. Prenez et mangez, prenez et buvez, ça veut dire qu'il n'est pas seul à devenir grand prêtre, la communauté qui est avec lui devient elle-même grand prêtre. Bon, ceci pour dire que on est dans vraiment cet idéal de Genèse 1, du récit sacerdotal, avec la différence qu'on ne cueille plus, mais on cultive. Je vous ai parlé un petit peu de Genèse 2, à la fois parce qu'il y a cette histoire de jardin, et ça on ne le trouve pas dans Genèse 1, le jardin, hein, parce que c'est une vision très cosmique, et puis aussi parce qu'il y a l'idée qu'il y a un rapport intime entre l'homme et la poussière, entre le vivant et la poussière, et plus exactement un lien entre la terre et le vivant. Et ça, on le retrouve au verset 29, puisqu'on voit qu'il y a cette idée un peu connue qu'une fois que nous sommes morts, nous retournons à la poussière. Ils retournent à la poussière, ça veut dire qu'ils sont issus de la poussière. Et ça, c'est vraiment l'idée de Genèse 2 avec l'homme tiré du sol, qu'on n'a pas en Genèse 1. En Genèse 1, l'homme n'est pas issu du sol, on ne lui souffle pas dans les narines, donc il n'a pas besoin d'expirer, il n'a pas besoin de lui retirer le souffle. Ça, c'est vraiment l'idée de Genèse 2. C'est intéressant, cette idée de poussière, parce que ça évoque le Sheol, qui est le lieu du séjour des morts, ça évoque la mortalité, on parle de la limite, finalement. Et il y a ici une évocation de notre finitude dans ce grand récit triomphaliste. Parce que vous l'avez dit, il y a de l'émerveillement, il y a de l'admiration, une sorte de majesté, et on pourrait avoir un sentiment d'infinitude, bien légitime, mais aussi peut-être que rien ne pourrait nous résister. Et puis en fait, on rappelle la finitude du vivant. Et c'est extrêmement important de l'avoir là. Vous voyez, à la fin, on a la finitude et pas le récit de la création de l'homme. C'est-à-dire que la finitude est à la bonne place, à partir du verset 29. Parce que c'est la finitude qui va déclencher la louange. Je chanterai l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques, tout ça, ça vient après le rappel de la finitude. Et c'est extrêmement important, je trouve, parce que on pourrait avoir de la foi chrétienne, notamment, cette idée qu'elle encourage le sentiment d'immortalité, et si ce n'est pas l'immortalité de la chair, en tous les cas l'immortalité de l'âme, eh bien, une fois de plus, ce texte biblique parle d'un moment où ça s'arrête. Voilà. On retourne à la poussière, fin de l'histoire personnelle. Et c'est parce qu'on prend conscience de cette finitude que du coup on va réinvestir le présent. Et alors, ce qui se passe là a d'autant plus d'intensité et ça donne d'autant plus de raisons de louer, d'être reconnaissant. Parce que c'est vrai que c'est assez fragile notre vie quand même. Hein ? Eh bien, premièrement, il s'agit, je veux dire, de ne pas la gaspiller. C'est un peu utilitariste, en tous les cas, de ne pas la laisser trop filer entre les doigts. Parce que comme le dira le psaume qui précède, le psaume 103, l'homme, mais ses jours sont comme l'herbe, le vent passe et le lieu où il était oublie qu'il était là. Donc cette fragilité, hein, cette dimension extrêmement précaire de l'humanité est affirmée pour qu'on en prenne conscience et que du coup on soit bien présent au présent. Et que du coup on puisse mesurer aussi tant de beauté pour une si petite chose. Effectivement, à la taille de l'univers, on est peanuts, quoi. Ah oui, c'est ça, qu'est-ce que l'homme, ouais.
Est-ce que cette notion de finitude, elle n'est pas en gradation? Parce que j'ai l'impression que le verset 27,
oui.
Il y a cette idée de dire, voilà, tout s'attend à toi, tu leur donnes leur nourriture, puis tu leur donnes, ils recueillent, et tu caches ta face, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de finitude qui commence même dès la vie d'aujourd'hui. Enfin,
bien sûr, vous avez raison. Le verset 27 dit à quel point nous sommes dépendants. L'autosuffisance, ça c'est une illusion. Être autofondé, illusion. Comme vous le dites très bien, verset 29, d'un seul coup, hop, tu caches ta face, ça veut dire on ne nous met plus dans le creux de l'oreille ce que pourrait être un idéal de vie, on est perdu. Hein, c'est un peu comme les disciples perdus quand Jésus meurt. Ils s'enferment dans une chambre haute, ils ne savent plus que faire. Donc, vous voyez, à partir du verset 27, hein, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, à partir du verset 27, il y a l'expérience du réel. C'est très pragmatique. Mais ça ne conduit pas au désespoir, ça conduit à la louange. C'est-à-dire que le fait que, après tout, la vie soit quelque chose de rare, on va lui donner de la valeur. Et ça, c'est quelque chose que Jean Calvin va retrouver. Dans une période où il y avait une obsession de la mort et une crainte du jugement dernier, Jean Calvin est celui qui va vraiment revaloriser justement la contemplation du monde pour nous remettre un peu dans les pas de ce psalmiste. Alors, il n'est pas forcément le psaume 104 en tête, mais Jean Calvin a des pages admirable sur la nature. Quand il commente Matthieu 5 sur les lys des champs, les oiseaux du ciel, c'est lyrique quasiment. Calvin, c'est pas l'homme tordu, c'est pas le moralisateur, c'est un poète, Jean Calvin, aussi. Il a aussi fondé une nouvelle civilisation qui demandait d'être un petit peu anguleux, disons. Mais il a aussi du lyrisme vis-à-vis de la nature. Il va considérer que la nature est en quelque sorte le théâtre où s'exprime le divin. Alors quand on voit une pièce de théâtre, on ne sait pas grand-chose sur le réalisateur. Et donc la théologie naturelle n'est pas possible immédiatement. Ce n'est pas parce qu'on voit le monde qu'on sait qui est Dieu. Ce n'est pas parce qu'on voit le monde qu'on sait qui est l'homme, vous le disais-je. Vous voyez une pièce de théâtre, vous ne savez pas grand-chose sur le metteur en scène. Bon. C'est pour cela que voir le monde à travers Genèse 1 et 2 est précieux, parce que c'est une sorte de verre correcteur. Et on utilise la révélation pour donner sens à ce que l'on voit, comme je vous le disais. Le verset 24 qui apporte aussi un petit quelque chose. Il fait mention de la sagesse. C'est assez rare, en fait. Il y a le livre de la sagesse dans les livres deutéro-canoniques, mais on parle assez peu de la sagesse divine. Et on pourrait très bien voir derrière la sagesse ce qu'au XVIIIe siècle on appelait la raison, par exemple. Autrement dit, il y a une rationalité qui va donner une structure au monde qui nous entoure. C'est-à-dire que le monde devient intelligible. Moi, j'aurais tendance à dire la religion, ça sert à cela. C'est rendre le monde intelligible et donc vivable. Une fois de plus, je vous sors l'exemple de la chambre d'adolescent. Vous ouvrez la porte et vous voyez un tohu-wabohu, le chaos primordial. Bon, c'est pas votre rationalité, enfin c'est pas la mienne. Mais pour eux, c'est extrêmement vivable, ils sont capables de vous dire, eh ben, là c'est le lieu où je fais mes devoirs, là c'est le lieu où je lis mes bandes dessinées, là ce sont pas simplement des vêtements sales, c'est aussi ce que je compte mettre demain, etc. Enfin bon... ils ont une façon d'organiser le monde qui est un ordre vital par opposition à ce que nous pourrions espérer en termes d'ordre géométrique, pour reprendre les termes de Leibniz. Bon. La rationalité, c'est justement le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il y a. Et à partir du moment où ils nous expliquent leur organisation, on ne va peut-être pas l'accepter, mais en tous les cas, effectivement, ça va nous sembler un peu plus sensé. Peut-être un peu plus acceptable, finalement. Bon. Je prendrais volontiers l'exemple des enfants qui ont des troubles psychologiques, enfin, ou des adultes, d'ailleurs, mais plutôt des enfants qui ont des troubles psychologiques. Ils sont dans une rationalité qui n'est pas la nôtre, mais quand on en parle avec eux, on trouve des rationalités intéressantes. Alors, bon, je ne vais peut-être pas prendre les troubles psychotiques, etc., mais un enfant qui apprend les mathématiques, c'est épouvantable. Un enfant qui n'a pas de problème et qui apprend les mathématiques, c'est épouvantable parce qu'il n'arrête pas de se tromper. Et la grammaire française, les conjugaisons. Les enfants n'arrêtent pas de se tromper. Mais ils se trompent bien souvent en ayant des raisonnements intéressants, y compris en mathématiques. Et il est beaucoup plus intéressant dans l'apprentissage des mathématiques de partir de leurs erreurs. Parce qu'ils ont essayé de bien faire, ils ont appliqué finalement une rationalité qui n'est pas celle qu'attendait le problème, mais à partir de laquelle on peut raisonner plus justement. Et vous savez, il y a tellement d'exceptions dans la langue française auxquelles les enfants ne sont pas habitués tant qu'ils ne les connaissent pas par cœur, qu'effectivement ils peuvent avoir des réponses qui ne vont pas. Mais je prends un exemple tout bête, 70. Bah, c'est absurde. Ça devrait être bien sûr 70. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais ça sera 70 et ce sera 80. Et ça sera 90. Mais ça, c'est une rationalité à part. Enfin, c'est très culturel, finalement. Voilà. C'est français.
C'est scandinave. C'est scandinave.
Ou c'est scandinave, bon, bon bref. Voilà. Donc, la sagesse, c'est la capacité de rendre le monde intelligible et donc vivable, praticable. On peut habiter le monde. Et je dirais que le texte biblique, l'ensemble du texte biblique, c'est une sorte de grande topographie qui nous aide à découvrir non seulement les structures, mais aussi les dynamiques. Pourquoi ne pas rendre hommage un peu à René Girard ? Qui avait mis en évidence les structures du bouc émissaire, du mimétisme, de la violence collective. Les textes bibliques sont nourris de cela. Hein. C'est en travaillant les textes bibliques et puis de nombreux récits mythologiques qu'il avait mis en évidence ce principe du bouc émissaire dont on parle bien sûr dans le livre du Lévitique, mais en l'appliquant par exemple à ce qui arrive à Jésus. Il est utile qu'un seul meure pour garder la paix sociale, par exemple. Bon, ça, c'est un processus de bouc émissaire parfait. Et il montrait que finalement, les textes bibliques étaient là pour démonter ces mécanismes de violence collective pour que nous puissions nous-mêmes les repérer quand elles sont à l'œuvre dans notre vie, dans notre environnement, pour ne pas en être les victimes. Donc, ce balayage du texte, cette fois, je reviens sur le psaume 104, ce balayage du texte permet d'aborder tout ce qui fait notre monde, de façon assez générale, pour que ce soit chez nous. Ça nous rend le monde familier. Et peut-être ce texte fait partie de ces textes qui autorisent la science. Genèse 1, ce n'est pas un texte scientifique, mais c'est un texte qui autorise la science. Parce que c'est un texte qui dit que la Lune, c'est un astre. Le Soleil, c'est un astre. Ce ne sont pas des divinités. Donc ce n'est pas tabou. Donc on peut les étudier, on peut les expérimenter. On peut expérimenter plein de choses sur notre Terre. Il n'y a pas un interdit qui dirait qu'il ne faut pas y toucher parce que c'est sacré, c'est divin, etc. Non, ce sont des éléments dont nous sommes responsables, mais qui peuvent être manipulés en quelque sorte. Donc Genèse 1 et ce texte, en balayant l'ensemble de la création, je dirais, désacralise.
Désenchante.
Mais vous voyez que ça finit par un réenchantement. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas d'enchantement. On n'est pas dans des éléments surnaturels, on est dans des éléments naturels qui vont être reconfigurés de manière surnaturelle. Voilà. Par exemple, deux êtres humains sont des êtres naturels, jusqu'à ce qu'on fasse du clonage, etc., et le transhumanisme qui va avec, vous et moi, nous sommes des êtres naturels. Mais quand nous sommes en interaction, alors ça devient surnaturel. Je veux dire, c'est quand même surnaturel qu'on soit dans cette pièce-là, alors qu'il fait même plutôt beau, quoi. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Ça, c'est culturel. Mais de façon plus générale, que le monde n'ait pas explosé 20 000 fois, c'est quand même assez surnaturel, alors qu'on a la capacité de faire sauter la planète plusieurs fois. Bon. L'amour des ennemis, c'est quand même un truc super surnaturel. Bon. Il y a plein de choses comme cela qui relèvent du surnaturel. C'est-à-dire qui sont contre nature. Enfin, je veux dire, le texte biblique, il est contre nature. Jean Calvin, avec son histoire de double prédestination, qui par ailleurs peut être assez épouvantable, c'est une arme de destruction massive du naturel. C'est une arme de destruction massive du conformisme social. Hein ? Dans un moment où on dit, eh bien, ta naissance détermine ta vie, Calvin disait, rien du tout. Ta naissance ne dit rien de ta vie. Dieu peut t'appeler à bien autre chose. Et donc, avant l'heure, il propose l'ascenseur social. En disant que le travail du cordonnier n'est pas moins noble que le travail du pasteur.
Approbation générale.
Ouais. Sachant que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, les pasteurs sont-ils les plus mal évangélisés ? Ou les moins pasteurisés ? Bon. Donc, je reviens juste sur ce que nous disions de la faiblesse. La faiblesse, elle est à partir de Genèse 2. Réinjecter la question de la faiblesse, c'est faire prendre conscience que l'homme est nécessairement solidaire. C'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres. C'est une évidence. Et du coup, ça ouvre une perspective universelle. C'est-à-dire que cette fragilité, cette faiblesse de l'homme fait que ce qui arrive au loin ne peut pas me laisser totalement indifférent. Ce qui fera dire à quelqu'un comme Martin Luther King, je ne peux pas me considérer libre tant qu'un homme ne l'est pas. Vous voyez, c'est cette dimension universelle qui est intéressante dans la foi suscitée par les textes bibliques, qui font peut-être un peu des fois de l'anthropocentrisme. Vous voyez, l'homme est quand même un peu au centre, hein, on a l'impression que tout est fait pour lui et que tout lui est assujetti. Mais on peut aussi découvrir que l'homme n'est pas moins faible que le reste et qu'il a simplement des pouvoirs qui lui donnent des responsabilités particulières. Et donc, voilà, peut-être que j'aurais tendance à finir là-dessus. Ce dernier verset, « Les pécheurs prendront fin de dessus la terre, et les méchants ne seront plus », On peut le comprendre de deux manières. Soit la justice de Dieu va éradiquer les méchants, les punir et mettre un terme à leur existence. Soit ce texte biblique fait partie de ces psaumes, je dirais, pédagogiques, éducatifs, qui ouvrent les consciences, qui éduquent et qui, du coup, font reculer l'injustice, la méchanceté, la violence. Je dirais la violence. On parle souvent de la religion comme facteur de guerre, générateur de violence, etc. La véritable religion est celle qui fait reculer la violence. D'abord parce qu'elle met des mots sur les expériences de la vie. Et quand on a des mots pour le dire, on est moins violent. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement la violence comme mode de communication. Et puis, deuxièmement, comme je vous le disais, révéler en fait le monde tel qu'il est et tel qu'il peut être, c'est le rendre plus familier. Et donc, ça nous rend moins agressifs, ça dédramatise. Quelle est la différence entre beaucoup de mythologies antiques et le texte biblique? C'est la question de la gestion de l'hubris. Voilà, cette puissance à l'œuvre. Les textes bibliques vont parler de conversion. C'est-à-dire qu'on ne combat pas le mal par un mal supérieur, on combat le mal par un bien supérieur. Et ce bien supérieur, c'est justement le travail de l'éducation. C'est le travail de la révélation. Gilles Petitgas, directeur à la Clairière, racontait qu'une fois, à l'époque où il était éducateur pour adolescents en difficulté, il faisait la prévention de la délinquance, il était avec un groupe, et dans ce groupe, il y avait notamment un jeune... marginal, qui avait fait un peu de prison, tout ça, mais qui, dans le même temps, et ce sont les termes qu'il utilisait, donc je vous les restitue sans euphémisme, se considérait comme de la merde. Et il était d'autant plus violent qu'il se sentait dévalorisé. Et puis un jour, dans les activités que Gilles propose, il doit faire le déménagement d'une personne âgée qui va de chez elle dans une maison de retraite. Donc les jeunes aident cette femme âgée à déplacer ses meubles. Et ils ne se contentent pas de déplacer les meubles d'un endroit à un autre, ils prennent soin d'elle en lui demandant comment elle aimerait que ses meubles soient agencés pour qu'elle se sente le mieux possible. Bon, bref, ils prennent soin d'elle, mais sans qu'on leur ait demandé, ils font preuve d'initiative. Et donc cette personne qui a entre 80 et 90 ans s'adresse notamment à ce jeune et lui dit « Ah, vraiment ?» Si tous les jeunes étaient comme vous, ça irait bien mieux en France. C'est une révélation. En fait, il se découvre capable d'accomplissements bien supérieurs à ce qu'il imaginait et à ce qu'évidemment tant de personnes lui avaient dit. Eh bien, le texte biblique fonctionne sur les mêmes principes. Alors là, ce n'est pas un texte qui fonctionne sur les relations interpersonnelles. C'est un texte qui fonctionne sur notre rapport au monde. Mais... par les temps qui courent et avant la COP21, le rapport au monde n'est pas quelque chose à négliger. Voilà. Il nous reste quelques minutes si vous avez des réactions, parce que j'ai tellement monopolisé la parole, oui.
Je voulais savoir, dans le verset 30 et dans le verset 35,
oui,
nous avons parlé, s'il y avait des références avec Apocalypse, Révélation, au chapitre 21, notamment sur la nouvelle terre qui sera mise après les 1000 ans.
Alors, y a-t-il un rapport entre les versets 30 et 35, par exemple, avec la fin du livre de l'Apocalypse, où il y a cieux nouveaux, terre nouvelle? Si on a une compréhension de cette vision de l'Apocalypse comme un renouvellement de notre monde, oui, parce que c'est bien de renouvellement dont il est question. C'est-à-dire que ce monde-ci, on peut lui donner un autre sens. On peut l'orienter différemment. Et donc, il y a bien une nouveauté qui est possible. On peut renouveler tellement de choses dans la vie, et notamment le regard que l'on porte sur les choses. Et la question du regard est vraiment déterminante dans l'Apocalypse, puisque c'est une vision qu'a Jean de Patmos. Donc, c'est bien son regard qui va être modifié par les épisodes successifs. Et à sa suite, on est invité à changer de regard. Et Jésus fait pareil. On parle de la guérison des 10 lépreux. C'est un peu abusif. C'est la guérison de notre regard. Tout le monde pensait que c'était des lépreux. Enfin, ils étaient lépreux, puis ils étaient guéris. Mais tout le monde pensait que c'était encore des lépreux, sauf Jésus qui les voit tels qu'ils sont et pas tels que la rumeur dit qu'ils sont. Du coup, il leur dit, ben, allez vous faire voir chez les prêtres pour attester de votre guérison. C'est en ce sens que le texte est une révélation. C'est qu'il a un caractère révélant. Comme la photographie. Hein. C'est-à-dire que tout est là, mais avec le révélateur, l'image surgit. Mais elle était là, en fait. Elle était disponible. D'autres diraient, c'est comme le sculpteur, le cheval était déjà dans le bloc de pierre. Et le sculpteur ne fait que le faire apparaître.
Il suffit d'en dessiner en trop, quoi.
En quelque sorte. Ça s'appelle casser les idoles. Hein, la chasse aux idoles, c'est finalement enlever tout ce qui encombre, et notamment les idéologies qui nous empêchent de voir correctement.
Ça, c'est vrai. Comment à l'époque ils sont arrivés à proposer des systèmes comme ça, concentriques et tout, ils avaient une idée derrière la tête?
Alors, déjà, ils n'étaient pas plus bêtes que nous à l'époque.
Ah non, mais sûrement,
mais... Vous savez, on a toujours l'idée qu'avant nous, on était moins intelligents. Mais... Alors, on imagine ce système au... En fait, c'est un... Je dirais, c'est un système, alors pour le coup, assez primaire. C'est que ce qui est au centre... a plus de valeur que ce qui est au loin. Et de même que notre intériorité, on sent qu'elle a plus de valeur que nos vêtements, par exemple. Bon. Donc, l'idée que le centre renforce la valeur, donne du poids, ça c'est une expérience de toujours qui s'articule par la question du foyer, de la maison.
Et alors, ils ont décidé d'écrire le texte sur le même chemin.
Oui. Qui a fait ça? Ben là, ce sont des prêtres. Mais il y a deux choses hein, dans l'écriture hébraïque. Il y a la forme qui donne du sens. Et là, la forme concentrique permet de dire où est le centre. Et puis, il y a le souci d'avoir des copies justes. Et donc, pour que les copies soient justes, c'est-à-dire qu'il ne manque pas des lettres, il faut avoir quelques critères de vérification. Et donc, des critères de vérification, ça peut être aussi le nombre de mots. On sait que dans tel passage, il y a tant de mots ou tant de lettres. Donc, travailler sur la forme, c'est quelque chose que les rédacteurs de l'Ancien Testament ont fait dès le départ. Enfin, dès le départ. Dès le départ où c'est devenu un texte utilisé pour un usage théologique. La couche sacerdotale travaille beaucoup sur cette question de la forme. Par exemple, Exode 19... c'est un récit juste avant le décalogue sur comment construire l'autel pour les sacrifices. Eh bien, le nombre de mots correspond à la valeur numérique du mot autel, l'autel sur lequel on fait les sacrifices. C'est un procédé mnémotechnique. On vérifie que la copie est juste comme ça. Voilà. Et on verra le psaume 119 à un moment donné. Le psaume 119, c'est un psaume alphabétique. Bon, alors là, je dirais, c'est la forme qui prend toute la place. On a tout sacrifié à la forme. À la limite, il n'y a presque pas de contenu. À la limite. Oui, c'est sûr. Alors là, je suis vraiment trop incompétent parce que... Bah ouais, je sais. C'est important de trouver ses limites. Il y a des études qui ont été faites sur la poétique et notamment sur les psaumes, notamment Silver Guiriec, qui était un normalien qui était avec moi à l'école biblique de Jérusalem. Si vous voulez, le mieux, si vous vous intéressez à cette question, c'est de lire des articles. Mais vous pouvez par exemple lire ce qu'écrit Méchonic, Henri Méchonic. Il a publié à la NRR Gallimard les 5 rouleaux poétiques et avec des découpages qui essaie de restituer un petit peu la scansion et le rythme. Donc déjà au niveau de la présentation, vous retrouverez quelque chose. Et puis sinon, là, il faut lire quelques articles parce qu'il y a un jeu sur la langue, etc., qui est très précis. Et là, je ne peux pas vous faire un topo comme ça. Je pourrais vous le travailler, mais là, là ça ne va pas bien marcher. Là. Et globalement, il y a à la fois de la sonorité, il y a des rythmes. Il y a des choses comme ça aussi, oui. Mais là, je suis incapable de vous restituer les structures de la poésie hébraïque. C'est déjà tellement compliqué à traduire. Mais certains sont capables de vous parler de cela et ils ont écrit dessus.
Oui.
Alors, la question, c'est avant les psaumes, il y avait des notes de musique. En fait, les psaumes, effectivement, pouvaient être chantés, psalmodiés, en fait, dira-t-on. Quand vous prenez des ouvrages de liturgie orthodoxe ou catholique, il y a quelques indications qui permettent aux célébrants de donner des inflexions, par exemple, hein, et de donner une sorte de mélodie. Dans les psaumes, il y a des indications sur parfois les instruments qui étaient utilisés, ou alors sur les pauses. Des fois, il y a écrit pause, c'est là. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu de rythmique, mais c'est la langue hébraïque qui donne la bonne rythmique, qui donne les bonnes indications. On vous donnerait un texte français, vous sauriez le retrouver. Il faut vraiment être familier de la langue hébraïque pour retrouver ça.
Que j'ai acheté un ouvrage de Théodose de Bèze à la Maison de la Bible.
Théodore de Bèze.
Théodose de Bèze. Oui. Et il n'y a que les paroles dedans.
Oui.
Il n'y a pas du tout repris les.
Alors les psaumes seront mis en musique au XVIe siècle, mais c'est artificiel. C'est-à-dire que ce sont des mélodies de l'époque. Ce ne sont pas des mélodies originelles. Et même les paroles vont être un petit peu retravaillées poétiquement, justement, par des gens comme Théodore de Bèze. On s'en tient là pour aujourd'hui.
Merci.
Prochaine fois, psaume 139.